Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 22 et nous sommes avec les invités du jour, Lisa Bienvenue et Quentin Dupont-Avis de la coopérative foncière Terres Anguilles, pour parler de la préservation des terres agricoles. Nous venons d'écouter Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres avant de commencer peut-être notre discussion. Vous aimez lire, Quentin et Lisa ?
Oui, quand on a le temps, oui.
Et vous avez un coup de cœur littéraire ou un livre de chevet à nous partager ?
Eh bien, pour rester dans le thème, j'ai pensé à reprendre La Terre aux Machines, qui est un manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire que je conseille de lire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Quentin. C'est vraiment un livre très accessible et à la fois percutant qui nous rappelle en fait l'histoire de l'agriculture en France, l'histoire de son industrialisation. L'histoire aussi de la précarisation des paysans et de notre alimentation. Donc, c'est un livre qui a été écrit pendant le confinement par l'Atelier Paysan, qui est aussi une coopérative qui agit pour l'autonomisation technique des paysans. Et vraiment, ouais, ça peut tout à fait être un livre de chevet.
C'est un incontournable dans le milieu, alors, puisque vous l'avez lu tous les deux, de ce que je comprends.
Oui.
Oui.
À découvrir alors, en tout cas une bonne introduction ou conclusion, puisque celles et ceux qui nous écoutent auront déjà entendu notre discussion. On va donc parler de la préservation des terres agricoles. Vous êtes une structure à Terres Anguilles qui achète collectivement des fermes et des terres pour y installer des paysans et des paysannes avec qui ont des projets qui contribuent à une agriculture respectueuse de son environnement. On va développer les différents thèmes. On parlait au début, en introduction, de la situation des terres agricoles, des terres dont le nombre est en baisse, avec également une baisse du nombre d'agriculteurs. Qu'en est-il sur le territoire du Guiès-Trois-Quayrac ? Qu'observez-vous ?
Sur notre territoire, il y a quelques spécificités, mais finalement, la situation est la même que sur le territoire national. Donc, une déprise agricole forte, qui est dû donc à une crise de la vocation, c'est-à-dire une perte un peu du modèle qu'on voyait avant, familial, où les enfants reprennent l'exploitation de leurs parents. Ça disparaît. Les enfants d'agriculteurs ne veulent pas reprendre ces fermes-là, ou ne veulent plus, ou moins. La mécanisation, évidemment, de l'agriculture, qui date quand même de plusieurs décennies, mais qui diminue forcément le nombre d'actifs, le nombre de paysans par ferme. Et on est aussi donc un territoire de montagne, donc un territoire qui s'est spécialisé vers l'élevage. Et aujourd'hui, l'élevage, c'est les spécialités agricoles qui rapportent le moins, qui sont plus difficiles économiquement. Même si aujourd'hui il y a un travail sur le label bleu du Quayrac qui nous concerne, ce label n'existe pas encore, ce qui fait que ça participe aussi donc à la moindre attraction économique de ce secteur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de transmission des fermes et donc une disparition de ce nombre.
Puisque ces fermes, que deviennent-elles ? Enfin, ces terres sur lesquelles sont les fermes, si elles ne sont pas transmises, on ne peut pas les racheter, elles peuvent être rachetées pour d'autres projets ?
La plupart du temps, les terres qui étaient travaillées par ces fermes-là, elles sont reprises par les voisins. Donc on a eu plus d'un doublement de la surface, en moyenne, des fermes sur le territoire là, du Guiès-Trois-Quayrac. Mais on a aussi un enfrichement de ces terres, donc elles ne sont plus travaillées, elles perdent leur potentiel. Ça se voit, on a perdu donc plus de 10% de cette surface agricole utile en 10 ans. Et on a aussi donc de l'artificialisation, donc c'est-à-dire la construction de ces terres pour de l'habitat, pour le tourisme, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, l'avenir d'une bonne partie de ces terres est toujours incertain. Et dans les prochaines années, ça concerne environ 300 hectares sur le Guiès-Trois-Quayrac, dont on ne connaît pas ce qui sera fait de ces terres.
Et donc vous, pour faire face à cette situation, on en parlait, qui est le cas dans d'autres territoires, hein, on l'a déjà dit, je ne reviens pas dessus, mais vous proposez d'acheter des terres collectivement et d'y installer donc des paysans, des paysannes. Il y a une autre structure qui fait déjà cela, qui s'appelle Terre de Liens. Peut-être que les auditeurs et auditrices le connaissent. Mais au niveau national, quelle est la différence de votre action par rapport à Terre de Liens ?
Donc, déjà, on a le même objectif. C'est de préserver le foncier agricole et l'activité agricole en installant des paysans et des paysannes. Ensuite, dans les modes d'action, Terre de Liens, donc, qui existe depuis 20 ans, je crois, va intervenir sur des projets qui, derrière, permettent une installation complète, qui permettent le logement, par exemple. Nous, à Terre-Anguille, on va se positionner sur aussi n'importe quelle surface agricole qui peut être mise à la vente. Sur l'enfrichement, on va chercher les friches. On va essayer de travailler avec les communes pour aller vers le défrichement de ces terres. Et ensuite, dans le travail, on va dire dans la présence locale, à Terre-Anguille, on se donne pour mission de ne travailler que dans le Guiers-Roi-Queyras pour être réactif, notamment lorsqu'il y a des DIA de la SAFER. On va être aussi présent au niveau politique, on va être en lien avec les communes qu'on rencontre régulièrement. Voilà.
Donc vous ne vous faites pas concurrence sur les terrains ?
Non, il n'y a pas de concurrence. En fait, la tâche est immense, puisque c'est environ 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Il y a le besoin de toutes les structures, qu'elles soient nationales ou locales. Terre de Liens apporte beaucoup dans son rôle de fédération et d'acteur ressource, d'acteur connu et reconnu. Et nous, en tant que petite structure, on peut se concentrer sur un territoire et aussi apporter notre pierre à l'édifice.
Alors justement, on va voir comment vous procédez. Comment vous trouvez des terrains ? Alors comment vous arrivez à les trouver et puis à convaincre les propriétaires de vous les vendre ?
Donc, tout d'abord, il y a la partie visible du marché, lorsqu'on peut voir des appels à candidature. Donc, s'il y a un appel à candidature dans notre secteur, dans le Guiers-Roi-Queyras, on va potentiellement se positionner et voir si, eh bien, s'il y a un projet agricole autre que le projet de Terre-Anguille qui est proposé par un paysan, par quelqu'un qui s'installe. On ne va pas aller en concurrence. Le but, c'est de maintenir l'activité agricole. Donc, si elle est maintenue par autre que nous, on va soutenir ces projets-là.
Seulement sur des terres qui risqueraient de sortir du milieu agricole ?
Non, pas forcément. Pas à sortir, mais des terres agricoles seulement. Évidemment, on va être très attentif aux éventuelles justement pertes de vocation agricole, mais il peut aussi ne pas y avoir de candidats sur ces terres-là. On va les racheter, ou des candidats qui peuvent être justement intéressés par un portage foncier. Donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous, on se porte acquéreur et on loue cette terre à la personne qui s'installe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des options.
Et donc sur le marché, Quentin, vous disiez, c'est un marché qui est présent, où vous pouvez vous positionner, mais pas seulement. Vous disiez qu'il y avait, c'était une des parties de votre travail de recherche.
Oui, donc il y a un autre axe de travail que j'ai donné tout à l'heure, qui est le suivi de la recherche de friches. Donc on parle, le terme exact, c'est de terres manifestement sous-exploitées.
Oui, c'est ça.
Voilà, je crois. Donc c'est un terrain qui avait une fonction agricole et qui ne l'a plus aujourd'hui. Donc là, on travaille avec les photos aériennes, avec les communes qui connaissent bien leur terre. Et puis on va voir sur le terrain aussi.
Et là, il va s'agir avec les propriétaires. Des fois, il y a des enjeux, on va dire, cadastraux, mais sinon, ça va être en fait de parler avec eux de leurs droits sur leur terrain, mais aussi de leurs devoirs en tant que propriétaires concernant du coup l'usage de ces terres et la mise en valeur de ces terres au niveau agricole.
Et au moment où vous devez les acheter, ces terres, vous devez passer dans tous les cas par la SAFER. Donc je rappelle, SAFER, vous l'expliquerez peut-être mieux que moi, mais qui est un organisme donc de mission publique qui est aussi là pour réguler le marché des terrains agricoles.
Tout à fait, ouais. Donc la SAFER, c'est Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. On va toujours passer par elle, en tout cas dans sa mission de régulation, comme vous l'avez dit, du marché agricole. C'est-à-dire qu'elle va toujours viser les ventes, soit concernant leur prix, soit concernant l'orientation qui va être donnée à ces terres. Mais la SAFER, on va aussi traiter directement avec elle en tant que, enfin dans son action, on va dire, d'intermédiaire entre les vendeurs et les acquéreurs, voilà, parce qu'elle va faire des appels à candidature, elle va aussi donner à savoir les ventes de terrain et de ferme.
Et donc concrètement, quand il y a une vente, la SAFER, c'est l'arbitre. Et Terre Anguille va être candidat. Il y aura peut-être d'autres candidats. Les candidatures seront analysées. Il y aura un comité technique qui analysera les projets. Mais c'est la SAFER qui arbitre cette vente.
Et vous passez même pour les friches, les terrains en enfrichement, par la SAFER, ou ça vous permet de passer aussi directement avec les propriétaires ?
Non. S'il y a une vente. Donc s'il y a une vente et qu'il s'agit de terrains agricoles et forestiers aussi, nous on ne gère pas le forestier, mais la SAFER, oui. Oui, ça sera avisé.
J'y pense, on parle de friches, ce sont des terrains qui n'ont pas, vous l'expliquez, hein, qui n'ont pas été exploités pendant un certain temps. Est-ce que cela a un impact après pour les locataires, les paysans, paysannes que vous allez installer sur leur travail, puisque cela signifie que le terrain n'a pas été travaillé pendant longtemps. Donc j'imagine que voilà, ça implique quand même un travail supplémentaire, peut-être.
Donc, en fait, si je connais bien le sujet, je crois que c'est au propriétaire de faire en sorte que la friche ne devienne plus friche, soit en faisant lui-même le travail, soit en le faisant faire par quelqu'un d'autre, ou alors il peut vendre. Et dans ce cas-là, c'est à l'acheteur de s'occuper de cet enfrichement. En tout cas, une friche au sens de terre agricole qui n'en est plus une, on peut défricher, je crois, sans autorisation, parce que ça a une vocation agricole, et c'est cette vocation qu'il faut préserver. Alors c'est un sujet qu'on travaille aussi, donc je découvre en tant qu'administrateur depuis seulement quelques mois.
En tout cas, il s'agira pour nous de donner à nos preneurs, donc aux fermiers, des terrains qui sont travaillables. Donc ce sera à nous de prendre le temps et du coup de mettre en œuvre ce défrichement et cette remise en état pour l'agriculture.
Ce ne sera pas à la personne installée. Vous le faites en amont, en tout cas. Ou alors parler.
Il faut du temps, en tout cas.
Donc, on disait que vous achetez ces terrains en tant que coopérative, donc collectivement. Comment ça se... Qui, en fait, qui est derrière et pourquoi collectivement ? Alors, on va déjà commencer par qui ? Vous êtes des sociétaires, alors ?
Oui, donc Terre Anguille, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, société coopérative, ça veut dire qu'on a des sociétaires. Les sociétaires, ça peut être les habitants, des résidents secondaires, donc en tant que personne physique. Ça peut aussi être des personnes morales, les communes, les exploitants agricoles, des associations. Je pense que j'ai fait le tour. Et donc coopérative, donc on gère collectivement notre objet social, notre objectif. L'objet social de la coopérative, c'est de préserver le foncier agricole. Donc derrière, on a des statuts et ils sont opposables. Donc si jamais quelqu'un prend le pouvoir au conseil d'administration et veut renverser la table et veut aller à l'opposé de l'objet social de Terre Anguille, eh bien, on pourrait poursuivre Terre Anguille pour ça.
D'accord.
Donc on doit suivre l'intérêt collectif. Voilà, société coopérative d'intérêt collectif.
Ça se traduit aussi dans la gouvernance, c'est-à-dire que chaque personne a une voix à l'Assemblée générale, quel que soit le nombre de parts que cette personne a pu acquérir. Et l'intérêt collectif aussi, il se manifeste à travers donc les personnes qui sont réunies autour de la table. Et on doit donc, bien évidemment, inclure les paysans installés au sein de notre gouvernance. C'est ça qui est très important. Et inclure toutes les personnes qui sont touchées par l'agriculture et l'alimentation. Et bah, pour nous, c'est tout le monde. Puisque tout le monde mange, tout le monde est concerné par l'usage qui est fait des terres.
Cela fait 4 ans que vous existez. Vous avez déjà de nombreux sociétaires. Vous en cherchez toujours ?
Oui, on en cherche toujours. Et en termes de nombre de sociétaires, il me semble qu'on est environ à 60 sociétaires. Des personnes physiques et aussi des communes. La première commune à être sociétaire, c'est la commune de Saint-Véran. Récemment, la commune d'Aiguille a pris la décision en conseil municipal de devenir sociétaire à son tour. Et on échange avec d'autres.
Ouais. Et donc, notre objectif, c'est évidemment de faire connaître Terre Anguille. Donc, on est souvent présent auprès du public. Mais évidemment... on lancera des campagnes de levée de parts sociales lorsqu'il y aura des projets d'acquisition qui le justifieront.
Vous en avez déjà des acquisitions ?
En cours.
Quel est l'intérêt pour vous d'être monté en coopérative et d'acheter collectivement ? Vous étiez une association auparavant, j'imagine qu'il y a toute une réflexion derrière.
Alors, l'association, son objectif était de se constituer en société coopérative. Elle a été constituée pour ça. Et l'AG de constitution de Terre Anguille en tant que coopérative a automatiquement dissous l'association.
Le point fort en fait, de cette forme juridique, pour nous, c'est vraiment la gouvernance. C'est cette forme d'association de l'ensemble des acteurs autour de cet objectif commun de préservation des terres et d'installation des paysans. Et aussi cette horizontalité donc entre les personnes sociétaires, donc liée à cette forme de une personne, une voix. C'est aussi une forme juridique dont on a l'habitude sur le Guies Trois Kéra, puisqu'il y a de nombreuses autres SIC. On est un territoire très riche en ce qui concerne cette forme de société.
Donc on a parlé de ce fonctionnement d'achat. On va désormais parler de la location et puis de l'installation, surtout des paysans et des paysannes. Ce sera juste après la pause musicale.
c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Nous sommes avec Quentin Dupont-Avis et Lisa Bienvenue de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Terre Anguille. Nous avons déjà parlé du fonctionnement de l'achat des terres agricoles pour les préserver. On a évoqué les menaces, les enjeux et les solutions que vous apportez. Donc vous achetez collectivement des terres sur lesquelles vous installez des paysans et des paysannes. On va parler de cette deuxième partie désormais. Déjà, on observe quand même moins de jeunes, ou de moins jeunes peut-être, mais qui ont des projets agricoles. Y a-t-il de nombreux porteurs de projets sur nos territoires ? Est-ce que vous avez une idée de cela ?
Oui, le département des Hautes-Alpes est quand même un département qui attire les porteurs de projets agricoles, qui attire pour s'installer en agriculture ici. Il y a environ 200 personnes par an qui se présentent au PAI, le point accueil installation, à la chambre d'agriculture pour commencer leur parcours d'installation agricole. Parmi ces personnes qui se présentent, et ça c'est un chiffre au niveau national, de plus en plus sont des néo, mais on les appelle surtout les NIMA, les personnes non issues du milieu agricole. Donc des personnes qui n'ont pas grandi dans des familles d'agriculteurs et qui souhaitent rejoindre l'agriculture.
Et ça, ça change quoi ? Ça signifie que ce sont des personnes qui ont besoin de terre, puisque les autres, généralement, reprennent la terre des parents ?
Oui, on va dire qu'en tout cas, c'était le modèle dominant jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, en effet, elles n'ont pas l'héritage de la ferme de leurs parents ou de leurs oncles, etc. Et donc, elles sont obligées, d'une part, de s'endetter pour acquérir ces fermes qui sont en plus de plus en plus chères puisqu'elles sont de plus en plus grandes. Mais aussi, elles n'ont pas accès à l'information pour s'installer puisqu'il y a très peu de terres qui passent chaque année sur un marché ouvert.
C'est du bouche à oreille.
Donc c'est du bouche à oreille. Voilà, la plupart du temps, on sait que telle personne va partir à la retraite, on est le voisin, on est un ami de la famille, etc. Mais aussi ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, on leur fait moins confiance. On ne pense pas qu'elles sont capables de s'installer, qu'elles sont pas forcément capables de supporter la dureté de ce métier qui est une réalité, d'autant plus en montagne. C'est difficile pour elles d'avoir accès à ce foncier.
D'où peut-être l'intérêt pour elles de louer. Sauf que quand même, est-ce que ce modèle séduit, puisqu'il peut y avoir une volonté d'être propriétaire de la terre qu'on va travailler peut-être toute sa vie ou en tout cas pendant un certain nombre d'années?
Oui, en fait, ça peut effectivement être une volonté. Si la personne arrive à être propriétaire parce qu'elle le souhaite, c'est tant mieux pour son projet. Nous, on va s'adresser aux personnes pour qui c'est un frein, pour qui l'accès à la terre est un frein. Le fait de louer une terre à un paysan ou une paysanne qui s'installe, va lui permettre d'orienter ses investissements ailleurs, dans son outil de travail, dans le démarrage de son exploitation qui peut être pas toujours évident. Donc on lève ce frein-là, ce frein de l'acquisition.
Lisa, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais dire qu'aujourd'hui aussi, et comme partout dans le monde professionnel, on observe plus de changements, en tout cas au cours de la vie professionnelle des gens. Et c'est pour ça aussi que la location des fermes se justifie aussi de plus en plus.
Et la location, le montant de cette location, comment vous le définissez ?
Il est encadré. Il est encadré au niveau départemental en fonction de la qualité de la terre.
Il n'y a pas d'achat possible à la fin. Ça restera à la coopérative dans tous les cas.
Exactement. C'est un portage foncier qui est pérenne. Quand les personnes partent à la retraite ou changent d'activité, ça revient dans un genre de pot commun et la ferme, les terres bénéficient à une nouvelle installation, une autre forme de transmission en tout cas, et donc ça protège surtout les biens de la spéculation.
Quentin, vous disiez que ça avait un intérêt pour les porteurs de projets de passer par la location, notamment pour peut-être investir sur leur outil de travail, enfin voilà, sur d'autres aspects. Y a-t-il d'autres avantages à cette location ?
Oui, en territoire de montagne, notamment, le parcellaire est très morcelé. On peut avoir sur un hectare, par exemple, une dizaine, une vingtaine de propriétaires différents. Et nous, à Terre-Anguille, on travaille aussi à avoir des secteurs cohérents pour installer quelqu'un. Donc le paysan qui veut s'installer, la paysanne, va s'adresser à Terre-Anguille, qui possède plusieurs parcelles différentes, chose qui aurait été plus compliquée, qui aurait pris plus de temps si la personne s'adresse à 20 propriétaires différents, par exemple.
C'est vrai que nous n'en avons pas parlé, mais ce territoire, où il me semble, peut-être que ça a été évoqué, mais je ne crois pas, à la parcellisation des terres avec beaucoup, beaucoup de petits terrains et qui est un vrai frein, effectivement, à l'achat. Donc, vous visez quand même à l'achat parfois de petits terrains comme ça pour essayer de les reconstituer, les remembrer ?
Oui, c'est une des stratégies long terme, voire très long terme, hein. Donc de pouvoir acquérir toutes ces micro-parcelles pour constituer une réserve, comme disait Quentin, cohérente, donc avec des surfaces qui peuvent supporter un projet d'installation.
Et comment gérer les investissements qui auront lieu sur ces terrains, puisqu'ils n'appartiennent pas aux locataires ? Est-ce que ce sera à la charge de la coopérative ou quand même de l'agriculteur ou de l'agricultrice ?
Alors là, il va y avoir plusieurs solutions, mais tout l'objectif de la SIC, c'est de fournir un cadre de travail sécurisant pour les fermiers qui s'installent. Et donc, il s'agira toujours de bien borner donc ces investissements dans les baux, donc dans les contrats de location. Il y a plusieurs solutions, mais ça va être par exemple des indemnités de sortie qui correspondent à ce qu'on appelle l'amélioration du fonds. Il peut y avoir d'autres formes, donc ce qu'on appelle des baux à domaine congéable, donc c'est-à-dire que Terre-Anguille est propriétaire des terres et les personnes sont temporairement propriétaires du bâti. Et donc, à ce moment-là, il y a la valorisation du bâti lors de leur sortie. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de solutions juridiques et qui seront adaptées à chaque cas.
Je rebondis sur le bâti, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça peut être des terrains où les porteurs de projets peuvent vivre du bâti pour y vivre ou ça restera que du bâti agricole ?
Alors, sur les terrains agricoles, il peut y avoir des fermes avec une habitation à l'intérieur, enfin, comprise sur le terrain. Il peut y avoir du bâtiment agricole construct, enfin, du foncier agricole qui est constructible, donc que ce soit pour les bâtiments d'élevage, mais lorsque ça se justifie, de l'habitation. Donc oui, à terme, l'objectif de la SIC, lorsqu'elle sera bien assise, c'est d'acquérir du foncier bâti, éventuellement de bâtir, puisque en fait, les terres, c'est important de les porter pour les personnes qui s'installent, mais c'est aussi le bâti et l'investissement qu'il nécessite qui justifie aussi ces opérations de portage foncier.
Quels sont vos critères d'attribution des terres acquises par Terre-Anguille pour installer les agriculteurs ?
Donc les critères, on est en train de les élaborer en commission. Il y a des groupes de travail sur ce sujet. Sans qu'ils soient déjà définis parfaitement, il y a quand même l'objectif général qui est de favoriser l'agriculture paysanne, donc une agriculture à échelle humaine, qui respecte son environnement, qui a des pratiques vertueuses, et dans un objectif aussi d'alimenter la population locale. Est-ce que j'en oublie ?
Oui, alimenter la population locale, c'est aussi notre, enfin, ça fait partie de nos objectifs, on va dire, enfin. Oui, À terme, c'est ça. C'est diversifier les productions pour nourrir les habitants du territoire, mais aussi des projets agricoles qui vont préserver notre cadre qui est quand même fragile. C'est un territoire de montagne où on trouve des prairies fleuries qui sont reconnues, où il y a donc dans le Kera un endémisme, c'est-à-dire des espèces présentes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc on est dans un cadre qu'il faut préserver pour toutes ces qualités naturelles.
Donc il y a un engagement quand même de Terre Anguille dans une certaine forme d'agriculture.
Oui, oui, voilà. Là aussi, ça sera dans les baux avec des outils juridiques.
Vous avez parlé de la souveraineté, justement, du territoire, souveraineté alimentaire. Que signifie la souveraineté alimentaire pour vous ?
C'est avant tout être en mesure de choisir ce qu'on mange. Choisir pour sa qualité, pour son prix, pour aussi son histoire culturelle.
Et en quoi Terre Anguille s'inscrit alors dans cette dynamique-là que vous voulez mettre en place ?
Eh bien, pour préserver cette souveraineté alimentaire, pour avoir le choix de ce qu'on mange et pouvoir aussi accéder à cette alimentation, eh ben, ça semble évident, mais la base, c'est quand même les terres agricoles. C'est sur les terres qu'on produit. Et c'est en les préservant qu'on préserve aussi cette alimentation, l'accès à cette alimentation et le choix de notre alimentation.
Nous en sommes où dans nos territoires de cette souveraineté agricole ? Vous avez une idée ? Il y a des chiffres ?
Oui, il y a des chiffres qui sont des modélisations, mais en tout cas, en ce qui concerne les fruits et les légumes, on tourne autour de quelques pourcents de nos territoires, donc entre 1 et 4% entre 1 et 4% de nos besoins en fruits et légumes sont produits sur le territoire.
Et vous, à Terre Anguille, vous imaginez quoi pour la suite ? Quelle serait votre vision, vos objectifs à ce niveau-là, sur cette question ?
Eh bien, 100%.
100% de souveraineté et autonomie alimentaire.
Oui, ou en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir être en mesure de se nourrir de ce qui est produit autour de nous, avec forcément des spécificités. En montagne, on trouve plus d'élevage pour du lait ou de la viande. C'est évident que c'est impossible de faire du lait ou de la viande dans le centre-ville de Marseille. Donc forcément, des éleveurs ici vont vendre un peu plus loin. Ensuite, c'est un équilibre entre les besoins de chacun, les productions locales. Mais tout ça, de manière... en fait, tout ça, il faut prendre le temps d'en discuter, de le choisir, de le planifier. Et pas forcément de se soumettre au prix des denrées, de se soumettre au marché qui est international, avec des prix qui sont décidés ailleurs, rarement en fonction des besoins de la population.
Donc relocaliser et remettre tout le monde autour de la table finalement. Eh bien, merci Quentin Dupont-Tavis et Lisa, bienvenue d'être venue nous en parler. On a une minute pour un mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose.
Très rapidement, ce sujet de souveraineté alimentaire, concrètement, il se décline avec la sécurité sociale de l'alimentation. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce sujet.
Où ça ? Vous avez un site ou quelque part ?
Oui, il y a un site internet national et puisqu'on parlait de livres, une très bonne BD qui s'appelle « Encore des patates ».
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Il est temps de se quitter. Rendez-vous demain à la même heure à 12h10 dans notre magazine « À la bonne heure » depuis l'antenne de Manosque avec Nathalie. Bon après-midi à toutes et à tous et à vous deux également.
Merci.
Merci. Taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla, asadito en el calor.
serranito con una machucadita con su chile costeñito tatemado de comal. Sin algo que pique, no sabe la vida. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño. Y con yulad y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño. Y con yulad y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir.
Ya te pido, ya te pido.
De serranito con una machucadita con su chile costeñito tatemado de comal. Con chile o sin chile. ¡Ay! Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor.